Bonjour à chacun. Ce matin, je vais poursuivre la série de prédications sur l'Évangile selon Marc. Et si vous venez de rejoindre l'Église, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir quand même continuer à suivre cette série, à comprendre la suite sans pas forcément avoir tout suivi depuis le début. L'Évangile selon Marc est un récit de la vie de Jésus. Et ce que nous pouvons dire dans tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant est que Jésus est loin d'être comme les clichés qu'on peut entendre sur lui. Jésus n'a pas juste été un bon enseignant. Il n'a pas juste été un maître de morale. Il est intéressant de souligner que dans l'Évangile selon Marc, Marc s'arrête très peu sur des longs enseignements sur Jésus et il privilégie vraiment les actions, les actes de Jésus et nous montre comment les gens autour de Jésus réagissent à ce que Jésus fait. Le message central de l'Évangile selon Marc et du coup de l'évangile de l'enseignement de Jésus, et dans le chapitre 1, verset 15. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Jésus est le roi Messie qui était tant attendu depuis longtemps par les Juifs. Et au travers de Jésus, Dieu a commencé à restaurer son règne de manière plus visible, en confrontant et en vainquant le mal. Jésus a manifesté sa puissance sur les esprits impurs, les démons. Jésus a manifesté son pouvoir sur le corps physique en guérissant. Jésus a montré qu'il est plus fort que la mort en ressuscitant une petite fille. Jésus a manifesté sa puissance sur la nature quand il était dans une barque et il a arrêté les vents. Jésus a montré son pouvoir et son autorité en pardonnant les péchés. Et là, bien évidemment, les religieux de l'époque, les juifs, les leaders juifs de l'époque, vraiment ça leur a posé problème. Mais pour qu'ils vraiment ils soient convaincus qu'il avait le pouvoir et l'autorité de pardonner les péchés, Jésus a guéri le paralytique. L'homme à qui il disait qu'il pouvait pardonner les péchés pour que vraiment il croit. Et en tout cas, que ça soit visible, de manière évidente, que Jésus pouvait pardonner les péchés. En fait, Jésus n'a laissé personne indifférent. Nous avons vu dans l'Évangile selon Marc que certaines personnes le suivent et deviennent ses disciples. D'autres sont incrédules malgré tout ce qu'elles voient. Et enfin, d'autres rejettent complètement Jésus, spécialement les leaders religieux juifs. Comme je l'ai déjà dit, en fait, ces leaders juifs vraiment n'acceptaient pas ce que Jésus disait. Et quand il a dit même qu'il pouvait pardonner les péchés, ils ont dit qu'il blasphémait contre Dieu. Et ils ont dit encore des choses pires. Ils ont dit qu'il était influencé par un démon. La grande question à laquelle nous essayons de répondre depuis le début de la série jusqu'à maintenant de l'Évangile selon Marc est la suivante. Qui est véritablement Jésus? Tout le monde ne réalise pas vraiment qui est Jésus. Et même parmi ses disciples, malgré tout ce qu'ils vivent, nous allons voir maintenant qu'ils n'ont pas encore tout saisi, qu'ils n'ont pas encore une totale confiance dans la puissance du roi Jésus, du roi Messie Jésus. On va lire donc ensemble le chapitre 7, au chapitre 7 à partir du verset 31. Et pour ceux qui suivent dans des Bibles comme celle-là, que l'Église peut vous donner gratuitement, c'est à la page 649. Et sinon, vous pouvez tout simplement suivre le texte qui est projeté. Évangile selon Marc, chapitre 7, à partir du verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers le lac de Galilée en traversant la région de la Décapole. On lui emmena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le supplia de poser la main sur lui. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha ». Est-ce que c'est bien ça qu'on dit ici, hein ? Je me suis posé. Comment ? C'est bon ? Bon, en tout cas, ça veut dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et se mit à parler correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommandait, plus il le proclamait. Rempli d'étonnement, il disait « Il fait tout à merveille ! Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ces jours-là, une foule très nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux, à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?»« 7 » répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4 000. Ensuite, Jésus les renvoya. Voilà le texte pour ce matin. Et ce que nous allons voir ensemble, c'est que Jésus, dans ce texte, montre sa puissance pour que ses disciples lui fassent confiance. Selon le texte, Jésus quitte Tyr, donc qui est... En fait, tout simplement, la Décapole, c'est les 10 villes que vous voyez ici en noir. Et tout cela est intéressant. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi on est en train de faire de cette géographie ? Je ne vais pas passer beaucoup de temps, mais tout simplement, ces données sont importantes pour savoir où, en fait, Jésus est. Et Jésus est dans un territoire non juif. Donc, Jésus est en train de montrer à ses disciples que sa mission ne se limite pas aux Juifs. Même si d'abord il s'est adressé aux Juifs, comme Stéphane nous l'a montré la semaine dernière. Jésus, dans ce que nous venons de lire, montre sa puissance à ses disciples en guérissant un sourd muet et en nourrissant une foule affamée, tout en mettant à l'épreuve la foi de ses disciples. Avant de nous intéresser à la guérison du sourd muet, intéressons-nous d'abord à l'attitude des disciples quand Jésus leur montre qu'il veut nourrir cette foule affamée qui est devant eux. Pour mieux comprendre l'histoire, imaginons-nous cette foule d'au moins 8 000 personnes devant nous. Je dis 8 000 parce que quand la Bible nous dit 4 000, ce sont juste les hommes qui sont comptés. Donc les disciples ont devant eux au moins 8 000 personne, avec les enfants et les femmes. Imaginons donc cette foule, et imaginons qu'elle est vraiment affamée, et imaginons Jésus à nos côtés, qui veut guérir cette foule, alors que nous n'avons que 7 pains et quelques petits poissons. La réaction humaine des disciples est totalement compréhensible, mais nous avons un peu de mal à comprendre. Pourquoi ils doutent que c'est possible de nourrir cette foule avec Jésus quand nous retournons juste quelques pages en arrière dans l'Évangile selon Marc au chapitre 6 à partir du verset 30. Au chapitre 6, Jésus a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule de 5 000 hommes environ et donc d'au moins 10 000 personnes en comptant les femmes et les enfants alors qu'ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. En lisant les deux histoires, où Jésus nourrit les foules affamées, nous pouvons constater que l'attitude des disciples est exactement la même. Au chapitre 6, au verset 35 et 36, les disciples disent « Cet endroit est désert et il est déjà trop tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Et dans notre texte de la deuxième multiplication, les disciples disent « Comment pourront-on leur donner assez de pain à manger ici, dans un endroit désert ?» Cette attitude des disciples nous montre leur lenteur spirituelle et leur manque de compréhension par rapport à ce que fait Jésus et qui est réellement Jésus. Les disciples voient la puissance de Jésus, mais ont encore du mal à faire totalement confiance, à lui faire totalement confiance. Et c'est pour cela que ce texte est là et que Jésus fait encore ses guérisons pour qu'ils voient sa puissance et que leur confiance soit augmentée. C'est primordial pour tout ce qui leur attend par la suite. Dans la suite de la série, nous allons voir que Jésus dira à ses disciples au verset 18 du chapitre 8 « Avez-vous encore le cœur endurci ? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. » En sachant tout cela, nous pouvons affirmer que les guérisons que Jésus faisait, y compris celles du surmuet juste avant la multiplication des pains, Jésus les faisait bien évidemment pour faire du bien à toutes ces personnes qu'il rencontrait. Mais ses disciples étaient à ses côtés et tout était bon pour leur montrer qui il était, la manière comment Jésus agissait. Et c'était pour leur ouvrir complètement leurs oreilles et leurs yeux spirituels. Mais malheureusement, cela semble ne pas avoir beaucoup d'effet dans la vie de ses disciples qui pourtant voient régulièrement la puissance de Jésus à l'œuvre. La guérison du surmuet sur laquelle nous allons nous arrêter maintenant semble n'avoir eu aucun impact positif sur la confiance de Jésus dans l'histoire tout de suite après, qui est une histoire où en fait Jésus est là devant cette foule et il veut les impliquer pour les nourrir. La manière comment Jésus a guéri cet homme est intéressante. Contrairement aux pharisiens, dans le texte juste avant, sur lequel Stéphane a prêché la semaine dernière, ces pharisiens qui vivaient à l'écart des non-juifs, ici Jésus est en train de montrer que Jésus ne vit pas à l'écart des non-juifs. Il va vers eux et il fait quelque chose qui est choquant pour ces pharisiens, c'est que en fait, non seulement il guérit, mais il les touche en fait. Il les touche, alors que pour les pharisiens, c'était des gens impurs, comme vous, si vous vous souvenez un petit peu de l'enseignement de la semaine dernière. Et en fait, c'est dans ce texte, à la fin de cette guérison, on voit que ceux qui ont constaté cette guérison, ils sont remplis d'étonnement. Et ils disaient, il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. Et c'est probablement cela qui a attiré cette foule immense qui se retrouve devant Jésus et ses disciples. Et certains viennent de très loin, comme nous dit le verset 3 au chapitre 8. Pour les disciples, cette guérison du surmuet n'est qu'une autre parmi tant d'autres qu'ils ont vues. Mais cela n'est pas encore suffisant. Quand Jésus les met à l'épreuve quelque part, en leur faisant comprendre qu'il veut les nourrir, cela ne suffit pas encore. Ils n'ont pas encore confiance dans ce Jésus, le roi Messie, qui est en train de restaurer le règne de Dieu sur terre. La suite de l'histoire, je ne sais pas, quand j'ai lu ces deux histoires, et je les ai lues beaucoup de fois, pour moi, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. La suite logique, pour moi, serait des disciples qui sont remplis de foi, qui ont confiance en Jésus pour nourrir cette foule. Parce que juste avant, Jésus leur montre cette guérison puissante. Ils pourraient aussi se souvenir qu'il a déjà fait un miracle similaire. Mais malheureusement, Jésus va devoir continuer à leur montrer sa puissance pour qu'ils lui fassent confiance. Ils n'ont pas encore véritablement compris qui est Jésus. Imaginez donc à nouveau cette foule affamée. Jésus plein de compassion pour la foule. Parce que cela fait 3 jours que ces hommes, ces femmes et ces enfants sont là et qu'ils n'ont rien mangé. Et Jésus, pour lui, c'est impossible de les renvoyer sans qu'ils aient mangé. Ils manqueraient de force pendant leur voyage de retour. Et Jésus ne veut absolument pas faire cela. Jésus ne fait que du bien autour de lui, comme nous pouvons le voir. La réaction des disciples, comme je l'ai déjà souligné, n'est pas du tout remplie de confiance. Et malgré tout, Jésus fait exactement ce qu'il a fait déjà pour réaliser la première multiplication. Il prend le peu que les disciples lui donnent, il accomplit le miracle de la multiplication, les disciples distribuent et à la fin, il reste des corbeilles pleines. Le but de Jésus dans ce texte, au travers de la guérison du surmuet et de cette multiplication, est que ses disciples soient totalement convaincus de sa puissance pour qu'ils deviennent des agents dans le royaume de Dieu en lui faisant totalement confiance. Je ne vais pas trop dire pour la suite, mais c'est malheureux. Même après cette deuxième multiplication, les disciples, on verra qu'ils n'auront toujours pas compris qui est véritablement Jésus et la puissance qu'il possède. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce passage pour nous aujourd'hui? Premièrement, je crois qu'il ne faut surtout pas imiter l'attitude des disciples. Nous devons croire que Jésus est le roi Messie qui restaure le royaume de Dieu. Aujourd'hui, ce texte nous invite à croire en Jésus-Christ, le roi Messie. L'incompréhension ou l'incrédulité n'est pas possible face à tant d'évidence. Jésus a guéri en terre juive et en terre non juive. Jésus est vraiment en train de montrer qu'il est venu pour restaurer le royaume de Dieu partout sur terre. Aujourd'hui, face à tant d'évidence, comment est-ce possible de ne pas accepter la royauté de Christ? Comment ne pas nous soumettre à sa royauté qui est une royauté bienveillante? Jésus ne faisait que le bien autour de lui, en confrontant et en vainquant le mal. Nous verrons dans la suite de la série que Jésus va mourir sur une croix. Et nous l'avons chanté ce matin. Il va mourir sur une croix pour que ceux qui mettent sa confiance en lui ne souffrent pas éternellement pour le mal qu'ils ont commis, mais qu'ils puissent être pardonnés, totalement restaurés et vivre une éternité sans souffrance près de Jésus. Et quelque part, dans ce texte, nous pouvons entrevoir un petit peu de ce royaume de Dieu qui sera totalement sans mal. Nous pouvons entrevoir cela au travers de la guérison puissante de ce surmuet et au travers de la transformation des pains pour rassasier la foule. Donc, croyons que Jésus est le roi Messie qui restaure le royaume de Dieu. Et si aujourd'hui Dieu vous parle, n'endurcissez pas vos cœurs. Répondez à Dieu. Croyez en lui. Deuxièmement, nous devons croire que Jésus est venu pour manifester, que Jésus veut manifester sa puissance au travers de nous, ses disciples. Jésus montre à ses disciples qu'ils doivent être des agents dans le royaume. Jésus a nourri la foule, mais il l'a fait avec ses disciples et avec le peu qu'ils avaient. Aujourd'hui, Jésus demande encore à ses disciples de tourner les regards vers la foule, ceux qui les entourent, qui sont près d'eux, et nous devons les regarder comme Jésus, avec compassion. Jésus nous demande de porter notre attention sur la foule qui nous entoure. Il peut vous dire, mais qu'est-ce que ça peut être bien les foules d'aujourd'hui ? Eh bien, je crois que nous en avons une en tant qu'Église. Nous, disciples de Jésus-Christ, ici à Grenoble, nous avons la ville de Grenoble. La foule est immense. Ce sont les Grenoblois. Regardons l'agglomération grenobloise. Croyons que Jésus peut faire beaucoup avec le peu que nous sommes et le peu que nous avons. La tâche est immense et nous devons mettre notre confiance dans la puissance de Jésus si nous voulons aimer véritablement cette ville. Manifester de la compassion. Nous sommes incapables autrement. La mission par nous-mêmes, impossible. Soyons dans une attitude de prière plutôt que d'incrédulité comme les juifs, comme les disciples face à la foule. Voilà une prière qu'on peut faire à Dieu. Seigneur, prends ma vie, mes dons, même si c'est peu de choses. Sans toi, nous ne pouvons offrir qu'un petit goûter. Mais avec toi, nous pouvons rassasier les foules parce que tu peux multiplier ce que nous te donnons. Notre ville, notre agglomération a besoin de voir des disciples avec la vision de Jésus. Des disciples qui vivent avec sa puissance pour transformer des vies en répondant aux besoins des Grenoblois et de tous les habitants de l'agglomération. Si nous vivons en réalisant vraiment que Jésus est en train de restaurer son royaume sur terre, nous ne resterons pas indifférents face aux foules, comme ses disciples. Mais nous allons vraiment être poussés à les aimer véritablement, même si cela met notre foi à l'épreuve, même si on se dit, mais comment je peux faire ? Jésus est là. Il peut le faire. Regardons à Jésus et non pas à nos petits pains et nos petits poissons. Si nous croyons à la puissance de Jésus, nous irons vers les foules. Notre amour sera visible par l'homme, peut-être dans la rue. Notre amour sera visible peut-être par les mères célibataires ou divorcées, les alcooliques, les dépendants dans notre ville, les dirigeants publics, les dirigeants politiques, nos amis, nos collègues de travail, les veuves et les orphelins. Nous avons aussi notre foule ici à Grenoble. Et Jésus a compassion d'elle. Et Jésus nous regarde aussi pour nous mettre à l'épreuve. Pour voir si nous aussi, nous avons compris sa puissance. Si nous aussi, nous avons compris qu'il veut restaurer son royaume ici et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus peut nous utiliser pour aimer ceux qui nous entourent. Et cela doit être notre marque en tant que disciples. Mais si nous ne réalisons pas la puissance de Jésus, nous aurons du mal à y aller. Nous aurons du mal à aimer la foule parce que nous nous sentons complètement incapables. Et c'est vraiment vrai, nous ne pouvons pas le faire sans Jésus. Marc nous montre clairement au travers de ce texte que la mission de Jésus s'étend au-delà des terres juives et il est en train de commencer à montrer à ses disciples que son amour doit se répandre partout dans le monde. Retenons que nos actes et la manière dont nous vivons révèlent en quoi ou en qui nous avons mis notre confiance. Est-ce que c'est dans le roi Messie qui a une grande puissance pour restaurer le royaume de Dieu? Je vous invite à qu'on puisse vraiment prier, être dans une attitude de prière plutôt que d'incrédulité. Soumettons-nous à Christ qui veut bénir, qui veut aimer au travers de nous. Amen.